Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le Black Friday tombera un vendredi, oui, mais de quelle semaine Bruno Le Maire voudrait que la vente en ligne et la grande distribution décalent leurs bonnes affaires de 7 jours? Comment déconfiner en douceur, éviter une troisième vague et une nouvelle perte de contrôle de l'épidémie? L'exécutif voudrait mieux tracer et mieux isolé dans les mois à venir. Le plan de relance européen pris en otage par 3 pays, Hongrie, Pologne et Slovénie, crise dont il sera question ce soir lors d'un nouvel échange entre chefs d'État par visioconférence. La politique en France, la majorité se fracture sur l'article 24 de la loi de sécurité globale qui veut réprimer la diffusion d'images malveillantes pour les policiers. À Vesoul, reprise du procès de Jonathan Daval, la parole aux experts, un psychologue décrit un accusé immature et égocentré. Dans le foot féminin, Amandine Henry, la capitaine, rappelée en équipe de France malgré ses critiques contre la sélectionneuse Corinne Diacre. Invité d'Europe Midi, l'historien Michel Vinoc qui raconte sa propre histoire dans Jours anciens chez Gallimard et rappelle entre autres ce qu'était la banlieue populaire des années 50, un monde complètement disparu. Michel Vinoc et son regard d'historien sur les crises que nous traversons.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les bonnes affaires du Black Friday pourront-elles attendre quelques jours? Bruno Le Maire recevait ce matin tous les représentants de la vente en ligne et de la grande distribution, bref, les commerces qui fonctionnent encore, pour leur demander de reporter d'une semaine leur promotion du vendredi. Qu'est-il sorti de cette réunion, Carole Ferry?
Alors, tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que le dialogue est bien enclenché. Globalement, les propos de Bruno Le Maire ont été bien entendus, bien accueillis. Maintenant, plusieurs problèmes se posent. D'abord, pour que le Black Friday puisse être décalé, il faut que tout le monde joue le jeu. Et là-dessus, eh bien, il n'y a pas de position commune. Fnac Darty, par exemple, est plutôt favorable parce que la priorité pour l'enseigne, c'est de rouvrir entièrement l'ensemble de ses rayons le plus tôt possible. Cdiscount est tout à fait prêt aussi à jouer le jeu par solidarité avec les commerces français. Mais la locomotive, c'est Amazon. Et là, eh bien, c'est une immense machine mondiale qui est lancée. Difficile d'avoir une exception française. Et puis, vous avez d'autres acteurs qui ont déjà imprimé leur catalogue, prévu de commencer l'opération dès demain avec toutes les campagnes de pub qui vont avec. Donc, vous voyez, ça n'est pas si simple. Alors, cet après-midi, aussi bien le gouvernement que la grande distribution et le commerce en ligne ont prévu de lister très concrètement, point par point, les problèmes que pose ce décalage d'une semaine. Et tout le monde doit se revoir demain après-midi.
Et Carole Ferry, ce soir, 18h, nouvelle prise de parole d'Olivier Véran, mais le ministre de la Santé devrait se contenter d'un point sanitaire. Les grandes décisions ne seront prises que la semaine prochaine et annoncées par Emmanuel Macron. Mais déjà, l'exécutif réfléchit à ne pas répéter les erreurs du premier déconfinement, à revenir dans le triptyque tester, tracer, isoler. De quelle façon, Anne Le Gall, en traçant et en isolant mieux?
Voilà, l'enjeu c'est toujours de casser les chaînes de contamination, d'autant qu'au-delà des fêtes de fin d'année, le froid risque aussi de favoriser la transmission du virus. Alors du côté des dépistages, ça va déjà un peu mieux. 250 000 tests antigéniques ont déjà été réalisés depuis fin octobre. Avec un résultat en 15 minutes, les malades prennent des précautions plus vite. Et du côté de l'assurance maladie, les réunions se multiplient en ce moment pour améliorer le dispositif de suivi de ces tests. 11 000 personnes tracent déjà les cas contacts 7 jours sur 7 par des SMS et des appels téléphoniques. Et tout l'enjeu demain, c'est d'améliorer l'efficacité au niveau national. Lorsqu'une région est débordée, il faudrait qu'elle puisse se reposer sur les autres.
On sait que les tests, c'est bien, mais isoler les patients positifs, c'est encore mieux, c'est même indispensable. Comment le gouvernement veut s'y prendre?
Ah oui, parce que l'isolement, c'est aujourd'hui le point faible, mais plutôt que la sanction avec contrôle et amende pour ceux qui ne respecteraient pas la règle, hypothèse qui a été sur la table, la piste sur laquelle travaille le gouvernement, c'est plutôt désormais un accompagnement pour les cas positifs qui doivent rester à domicile, une mission qui pourrait revenir aux équipes de l'assurance maladie. À l'avenir, ces équipes pourraient aider les malades à mieux s'isoler avec des appels téléphoniques et des conseils personnalisés.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Et pendant ce temps, l'Europe se déchire. L'Union et ses milliards d'euros de budget et de plans de relance sont pris en otage par 3 pays, Pologne, Hongrie et Slovénie, qui refusent que l'attribution des fonds européens soit liée à l'état de droit et au respect de la démocratie. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Les positions sont figées. Les chefs d'État vont en parler ce soir ensemble par visioconférence. Que peut-il se dire et surtout que peut-il se passer?
Bon, à Bruxelles, il y a quand même une certaine expérience des crises et des chantages de dernière minute. Donc, la riposte s'organise face à ces 3 pays. La riposte sont, par exemple, des menaces sur le mode « on peut faire sans vous ». Illustration avec le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune.
Nous regarderons, s'il le faut, en dernier ressort, comment avancer sans les pays qui bloquent, car l'Europe ne peut pas être retenue en otage par un certain nombre de gouvernements qui ne souhaitent pas avancer, qui ne souhaitent pas respecter le socle essentiel de notre projet politique.
Bon, ça, c'est l'option nucléaire, hein, parce qu'un plan de relance à 24, c'est beaucoup plus compliqué, ça prendrait des mois. Mais pour la Hongrie ou la Pologne, gros bénéficiaire de l'argent européen, c'est quand même inquiétant. En parallèle et en coulisses, les diplomates s'activent. Ce qui déplaît aux trois réfractaires, c'est que l'argent européen sera lié au respect de l'état de droit. Ils se sentent, à juste titre, visés. Des clarifications écrites sur la manière dont ça serait organisé pourraient les rassurer. Voilà, ce soir, sans doute pas de solution. Une visioconférence, c'est plutôt l'occasion pour chacun de répéter ses arguments que de vraiment négocier. Le temps presse, pourtant, à la BCE, Christine Lagarde l'a rappelé ce matin, il faut que le plan européen soit opérationnel sans délai, sous peine d'aggraver la crise économique.
Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe 1.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, Vesoul, la suite du procès d'Aval et le profil psychologique de l'accusé.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À Vesoul, devant les assises de la Haute-Saône, le procès de Jonathan Daval a repris normalement ce matin après le malaise de l'accusé hier soir. Et à la barre, un expert qui a tracé le profil psychologique du meurtrier présumé d'Alexia, Arthur Mbaché.
Et au cœur de l'analyse de l'expert psychologue, ce qui explique, selon lui, l'événement d'hier soir, l'évanouissement de Jonathan Daval. C'est très intéressant ce qui s'est joué hier dans le box, dit-il. L'accusé est un sujet immature, très intranquille, égocentré, qui ne supporte pas, dit l'expert, que son image soit ternie et qui met en œuvre des mécanismes pour contrer ça. Le déni et le clivage, l'existence, dit-il, de deux personnalités qui coexistent sans jamais se rencontrer. La personne qu'il va donner à voir, gentille, soumise, serviable, bien comme il faut sous tout rapport, qui s'adapte aux personnes et aux circonstances. Un caméléon qui change selon qu'il est, par exemple, chez ses beaux-parents ou chez sa mère. Et, en même temps, juxtaposer un autre personnage beaucoup plus solide, dit le psychologue, plus agressif, plus dominateur et qui ne supporte pas la rupture. Et ces deux personnages ne se rencontrent jamais, jamais, sauf hier soir, ici aux Assises. Et là, il est mal, dit l'expert. Il ne se sent pas bien, c'est symptomatique. Il ne pouvait plus échapper à ces deux personnalités qui étaient en train de se réunir, de se confronter à lui. Et donc, pas d'autre solution. Son corps lâche. Jonathan Daval est bien là depuis ce matin dans le box. Après une nuit à l'hôpital de Vesoul, un certificat médical établit qu'il est apte à suivre l'audience. Son interrogatoire devrait reprendre cet après-midi.
Merci Arthur Mbaché en direct de Vesoul pour Europe 1. La politique avec le malaise et même plus que ça, la fracture de la majorité sur une disposition de la loi sécurité globale. On vous en a déjà parlé ici, c'est l'article 24 qui veut punir la diffusion malveillante d'images de policiers en intervention. Il y a une vraie cassure, Jean-Rémy Baudot.
Jamais je ne voterai ça. Au sein de la majorité, ils sont de plus en plus nombreux à le dire. L'article 24 de la proposition de loi sécurité globale, ils ne le soutiendront pas. Certains dénoncent un article mal rédigé, d'autres travaillent à l'amender. Je me demande à quoi il sert réellement, me confier cette semaine, un pilier LREM à l'Assemblée. Cet article, il n'était pas dans la version initiale du texte. Il a été rajouté à la demande du ministère de l'Intérieur afin officiellement de protéger les policiers dans leur vie privée. Sauf qu'en pratique, il pose des questions en termes de liberté publique. Darmanin joue sur l'ambiguïté pour être bien avec les syndicats de flics, dénonce un conseiller ministériel. Certains membres du gouvernement comprennent l'intention, mais peu se risquent à soutenir publiquement cet article. L'aile gauche du gouvernement est mal à l'aise, et même certains ministres issus de la droite refusent de le commenter en privé. Il faut dire que le contexte est compliqué. Mardi soir, des journalistes ont été empêchés de travailler sur une manifestation autour de l'Assemblée. Et hier, Gérald Darmanin laissait entendre que la presse, je cite, « doit se rapprocher de la préfecture de police pour ne pas être considérée comme des manifestants ». Au sein de la majorité, beaucoup attendent que Matignon et l'Élysée reprennent le dossier. Darmanin est en roue libre, tacle un macroniste.
Jean-Rémy Baudot, le football chez les Bleus UES. Corinne Diacre vient de dévoiler la liste pour la qualification de l'Euro 2022 et la capitaine des Bleus, Amandine Henry, y figure. Pourtant, elle avait été très critique dimanche dernier contre la sélectionneur nationale. Mais il faut croire, Julien Froment, que le temps est à l'apaisement.
Oui, et on sent que cette volonté de calmer le jeu a été téléguidée par la Fédération française de football. En préambule de la liste, Corinne Diacre a lu ce qui ressemble à un communiqué de presse où elle appelle à l'unité, à laisser de côté les états d'âme des unes et des autres. Tendez bien l'oreille, car à l'instar de la communication entre la sélectionneur et certaines de ses joueuses, eh bien, il y a de la friture sur la ligne.
Nous avons besoin, durant ce rassemblement capital, d'une bonne attitude générale, de sérénité, d'ambition et de ne penser qu'à notre réussite collective. Bien évidemment, j'ai entendu les déclarations critiques de ces derniers temps. Mais le moment n'est pas venu aujourd'hui de régler ce problème alors que notre équipe nationale joue son avenir sur le terrain.
Voilà, Corinne Diacre a bien confirmé qu'il y a un problème en ce moment en équipe de France, mais elle dit avoir le soutien du président Noël Le Graët et de ses joueuses. Si elle se dit prête à se remettre en question, il faut que cela soit aussi dans les deux sens. En tout cas, la grande explication aura lieu lundi à Clairefontaine, les yeux dans les yeux. Diacre espère d'ailleurs que cela restera dans les murs du château, même si ces derniers temps, les mots bleus se sont surtout affichés dans la presse.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe. On vient d'apprendre la mort du comédien Michel Robin, ancien sociétaire de la Comédie-Française, figure du théâtre. Il a joué de très nombreux rôles au cinéma et à la télévision. Sa grande silhouette dégarnie, sa voix douce, timide et un peu traînante vous sont forcément familières. On l'a vu dans La Chèvre ou Amélie Poulain. Michel Robin avait 90 ans. Le temps, Anissa Haddadi. Attention au vent.
Oui, effectivement, Patrick, cet après-midi et jusqu'à demain matin, sur le Roussillon, le bassin méditerranéen, les Pyrénées-Orientales et la Corse, eh bien, le vent se renforce avec, sur la vallée du Rhône et le Roussillon, des rafales jusqu'à 120 km/h. Et on attend du vent jusqu'à 150 km/h sur le Cap Béart, ça c'est dans les Pyrénées-Orientales, donc grande prudence. Sur le reste du pays, la perturbation qui a apporté des pluies cette nuit et ce matin est en train de s'évacuer par l'est. Sur les Alpes et les Pyrénées, il pleut encore cet après-midi avec des flocons, même sur les Alpes à partir de 1200 mètres. Partout ailleurs, nous avons un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec d'ailleurs sur le quart nord-est quelques petites averses cet après-midi. Les températures, vous l'avez senti ce matin, hein, elles sont en baisse. 11 degrés à Aurillac, 12 à Lille et Strasbourg, 13 degrés pour Paris et Clermont-Ferrand, 15 à Bordeaux, 18 à Nice, 20 à Marseille et 21 la maximale pour Nîmes.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, Michel Vinocq, le grand historien qui rassemble ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, mais qui le fait en historien, en décrivant un monde disparu complètement, celui d'une banlieue des années 50. Michel Vinocq, invité d'Europe Midi dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Michel Vinocq.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous êtes l'un de nos grands historiens, longtemps professeur à Sciences Po. Vos travaux sur l'histoire des idées politiques, celles de la France républicaine, sont des références et fondé l'excellente revue L'Histoire. Vous publiez aujourd'hui chez Gallimard Jours anciens, qui sont bien plus que des souvenirs d'enfance et d'adolescence dans les années 50 à Arcueil, en banlieue parisienne. C'est l'évocation d'un monde, d'un mode de vie, de pratiques sociales qui ont totalement disparu et qui sont souvent oubliées. Comme l'a dit Bernard Pivot dans le JDD, vous faites l'historien de votre histoire. C'est une façon aussi de montrer l'incroyable chemin parcouru en quelques décennies.
Certainement. Ce livre est un livre autobiographique, puisque je raconte mon enfance, mon adolescence, comme vous l'avez dit. Mais en même temps, je sais que chacun d'entre nous appartient à un certain moment, à un certain lieu, et qu'il est représentatif de quelque chose. Autrement dit, dans chaque individu, vous avez une partie qui est l'appartenance à son époque. Et par exemple, dans mon cas, je fais partie des classes creuses, de ceux qui sont nés entre 1935 et 1942, et cela a une certaine importance. J'ai été élevé dans la religion catholique, bon, et c'est banal, ouais. Bon, il y a toutes ces choses.
Et dans une banlieue communiste.
Et dans une banlieue communiste, la ceinture rouge. Bon, tout cela, ce n'est pas, si vous voulez, original. Mais il y a aussi l'autre partie de moi-même, de chacun d'entre nous, qui est irréductible à tout cela. Et qui est ce que nous avons fait. Alors, je vous donnerai un exemple de différence entre les deux dimensions. Je suis d'une famille de 6 enfants, et je suis le 6e, et je suis le seul à avoir fait des études, ouais. Je veux dire des études secondaires et supérieures. Bon, ça, c'est dans ma famille une singularité. Ce n'est pas représentatif des milieux populaires où j'ai vécu.
On va revenir, Michel Vinocq, sur la question des études, mais une chose importante, tout début, dans le prologue de votre livre, vous dites il y a pas de nostalgie, ce sont des jours anciens, mais je ne pleure pas, contrairement à Verlaine. La mort par tuberculose de votre père et de votre frère, à quelques mois d'intervalle, au sortir de la guerre en 44-45, vous a complètement vacciné, si je puis dire, contre le sentiment de nostalgie ou l'idée d'un paradis perdu que serait la France d'avant.
Oui, tout à fait. Je suis toujours un peu irrité par l'idée que c'était mieux avant. Non pas que je bénisse mon époque, l'époque dans laquelle nous vivons, certainement pas, parce que toutes les époques ont leur bon et leur mauvais côté, mais dire que c'était mieux avant, c'est oublier toute une série de choses quand même qu'il faut avoir en tête, et en particulier la santé des hommes, la manière de vivre, le pouvoir d'achat, je n'insiste pas, mais imaginez que on mourrait en 1944-45 encore de la tuberculose, qui aujourd'hui a été à peu près, en France en tout cas, éradiquée. Voir l'espérance de vie, voir ce qui a été fait en termes de progrès de la médecine, de la chirurgie, rien que cet aspect-là nous interdit de dire « Ah, c'était mieux avant
ouais. ».
Donc, vacciner, oui, je n'aime pas la nostalgie, je n'aime pas les regrets. Alors, naturellement, ça ne veut pas dire pour autant que je déteste le passé. Pas du tout, ou que j'admire encore une fois. Mais je veux être un contemporain au sens fort du mot, c'est-à-dire vivre avec mon époque, non pas encore une fois pour la glorifier, l'admirer, pas du tout, mais parce que je ne veux pas être détaché du monde, de ce qui se passe dans le monde, d'abord dans mon pays, mais aussi dans le monde, et que avoir la nostalgie du passé, c'est aussi un refuge, une fuite, n'est-ce pas ? Et c'est pas du tout mon cas dans ce livre.
Ah non, pas de nostalgie, vous rappelez aussi ce qu'était la banlieue avant les barres HLM, des logements pour la plupart sans eau chaude, sans WC intérieur, sans salle de bain, où on allait se laver au bain-douche une fois par semaine, ce qui était votre cas. Il y a des centaines de souvenirs qui vont frapper les lecteurs dans votre livre. Le vin qu'on sert à la cantine dès la sixième, le rituel des bagarres et des ascendants dans les classes qui étaient basées sur la force physique et la réputation de cogneur des uns et des autres, la course au chewing-gum, même déjà mâché auprès des GIs qui occupaient la cité universitaire, et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Vinocq, le rôle structurant du catholicisme et du communisme dans les classes populaires. Vous avez côtoyé les deux avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Un mot quand même pour revenir sur la question de la santé. On en parlait un instant avec deux de vos proches qui sont morts de tuberculose. En lisant cela, j'ai eu la confirmation que l'épidémie qui nous paralyse en ce moment nous renvoie en quelque sorte à des jours anciens, que cette pandémie-là que nous vivons aurait été à l'époque de votre enfance dans l'ordre des choses, non ?
Oui, sans doute, mais les contextes sont absolument différents. La pandémie que nous vivons et dont nous avons tellement de mal à sortir, rappelons-nous qu'elle ne fait pas beaucoup de morts. Je dis évidemment en termes relatifs. Songez aux grandes épidémies qui ont eu lieu dans le passé, la peste, le choléra, la grippe espagnole, etc. C'était des millions, des milliers en tout cas, et des millions de morts si on l'étend au-delà de nos frontières. Aujourd'hui en France, nous avons un peu plus de 40 000 morts. Je ne dis pas que c'est rien, mais je crois qu'il faut relativiser. Après la guerre, nous avons vécu non pas dans l'épidémie, mais dans la pénurie. La pénurie. On n'avait rien en 44, 45, 46. Jusqu'en 49, on a encore des tickets de pain pour acheter le pain. Et dans toutes les familles, il faut s'ingénier à trouver de quoi survivre, de quoi manger. Alors il y a le marché noir, mais tout le monde ne peut pas y avoir accès. Et il y a évidemment des maladies qui découlent de cet état de malnutrition, dénutrition. C'est un contexte, par conséquent, tout à fait différent. Aujourd'hui, nous sommes dans une société riche, je parle de l'Occident, de la France, qui est frappée brusquement par une épidémie, une pandémie inattendue et qui nous rend évidemment craintifs. mais je crois que les contextes sont tout à fait différents. Dans ces années-là, au fond, on n'avait pas trop peur de l'avenir. On venait de passer, on a eu un passé récent horrible, terrible, on sortait de la guerre, et au fond, il y avait une lumière au bout de nos peines. Nous vivions donc dans la rareté, la pénurie, le désir de faire mieux.
Mais dans la certitude que ce serait mieux demain.
En tout cas, dans la grande espérance.
Ouais. Autre évocation saisissante, Michel Vinocq, de ce qu'était la France dans les années 50, ce système scolaire à deux vitesses, avec l'école des pauvres, dont la finalité était le certificat d'études, qu'on vous a d'ailleurs fait passer, même si vous étiez déjà au lycée, et celle des bourgeois ou des classes intellectuelles qui étaient tournées vers le baccalauréat. On a oublié à quel point le système était inégalitaire.
Ah, complètement. Songez que dans la classe de l'école primaire, la dernière classe où j'ai été, nous étions environ 32 ou 33. Et sur ces 33, nous étions seulement 3 à passer l'examen d'entrée en 6e, c'est-à-dire au lycée. À l'époque, le premier cycle faisait partie du lycée. 3, vous vous rendez compte ? Les gens qui passaient, les garçons, les filles, qui pouvaient passer le baccalauréat, c'était une petite minorité, moins de 10% d'une classe d'âge. Donc, il y avait un cursus qui était celui de l'école primaire, où les meilleurs élèves faisaient ensuite quelques années en cours complémentaire, et parfois pouvaient passer l'examen ou le concours d'entrée à l'école normale des instituteurs.
Oui.
Ça, c'était la voix des gens modestes, n'est-ce pas, qui étaient quand même assez doués pour faire des études.
Enseignement bourgeois qui n'était pas une garantie de qualité. Moi, j'ai été frappé en vous lisant par le souvenir pas très flatteur que vous avez gardé de vos profs du lycée Lacanal. En tout cas, c'est pas à eux que vous devez votre vocation d'historien.
Pas d'historien, mais c'est grâce à certains d'entre eux, quand même,
oui,
que j'ai pris un goût
pour les lettres,
un goût immense de la littérature.
Oui.
Car il se trouve que, par hasard, j'ai eu d'excellents professeurs de lettres et de professeurs d'histoire géo qui ne m'ont jamais véritablement séduit, entraîné. Donc, c'est un hasard. Mais c'est vrai que jusqu'au bac, je n'ai jamais pris au sérieux l'histoire. Alors que j'allais devenir plus tard professeur d'histoire. Je voulais être d'abord professeur d'éducation physique, parce que j'étais bon en sport. Et puis ensuite, comme j'avais de très bonnes notes en français, professeur de lettres. Et puis, ce n'est que plus tard, en entrant dans les études supérieures à la Sorbonne, et déçu, très déçu, par l'enseignement de la littérature, que j'ai fait un petit tour vers les historiens. Et là, d'un seul coup, j'ai été émerveillé, ébloui, par de très grands profs qui m'ont montré que l'histoire, c'était pas la ritournelle des dates, des batailles, oui, des rois, etc. Non, que l'histoire, c'était vraiment, en profondeur, la vie même des hommes.
Merci beaucoup Michel Vinocq d'être venu nous parler de ces jours anciens qui paraissent chez Gallimard. Et je rappelle une somme qui est parue récemment, je crois que c'était il y a 3 ans, La France républicaine, histoire politique, 19e, 21e siècle, chez la collection Bouquins chez Robert Laffont. Merci d'être venu dans Europe Midi.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le 13h avec Christophe Lamarre, La France bouge ensuite. Bonne journée à l'écoute d'Europe.
Europe Midi, Patrick Cohen.